Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une figure illustre du diocèse de Cahors que je vous propose de découvrir ce matin, un bienheureux de notre région, né au XVIe siècle, mais comme tous les hommes de Dieu, étonnamment moderne. Un apôtre infatigable, mort d'épuisement, réformateur d'abbaye, grand ascète, fondateur de nombreuses œuvres de charité, ami de Saint Vincent de Paul ou de Saint François de Sales, j'ai nommé le bienheureux Alain de Solmignac. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin, donc en direct des studios de Cahors. Je reçois ce matin donc honneur à vous, Étienne Beau. Donc vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes un fin connaisseur d'Alain de Solmignac. Et puis donc vous tenez ici une chronique radio qui s'appelle Histoire du Quercy. Bonjour.
Bonjour.
Et pensez à bien parler devant le micro. Et l'abbé Ronan de Gouvello, peut-être connu de certains, donc curé aujourd'hui de Cahors. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur l'abbé, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
C'est pas mal.
Voilà. Alors, peut-être avant qu'on se lance un peu dans l'histoire de ce personnage et montrer à quel point donc il a une grande actualité. La première actualité, c'est donc que le diocèse de Cahors va ouvrir une année Alain de Solmignac. Alors la parole est à vous. Donc c'est une année qui va s'ouvrir le 10 juin prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se prépare et pourquoi je ne sais pas si c'est l'évêque, en tout cas j'imagine que oui, veut remettre au goût du jour ou sortir des placards ce bienheureux.
Alain de Solmignac a été ordonné diacre le 25 mars 1617 et il va être ordonné prêtre le 22 septembre 1618. Et à cette occasion, l'évêque a eu l'idée de lancer une année de prière pour les vocations. Donc c'est le but de l'année, c'est vraiment de porter cette intention de prière particulière dans l'église de Cahors. Nous avons des séminaristes, mais...
5, c'est ça ?
5.
Ce qui est déjà pas mal pour un diocèse...
Pour
votre taille, j'allais dire.
Bah, pour le plus beau diocèse du monde, c'est pas mal.
Voilà, exactement. Bon, c'est pas assez, évidemment.
Mais c'est vrai qu'on peut toujours en désirer plus. Et donc, prière pour les vocations, mais aussi redécouverte de la figure d'Alain de Solmignac. L'objectif, c'est que les chrétiens du diocèse, dont leurs illustres prédécesseurs ont été visités par ce saint évêque après le Concile de Trente, et qui a mis en œuvre des réformes très importantes pour l'église de Cahors et qui a assuré en fait une belle fécondité de l'évangile dans cette terre du Quercy. L'objectif est que nous puissions peut-être arriver à demander la grâce de sa sanctification, enfin de sa canonisation. Et donc c'est pour ça que pour demander la grâce de la canonisation, il faut la désirer.
Et il faut un miracle, donc peut-être que...
Et il faut un miracle.
Le miracle, ça serait quoi ? Ça serait 10 vocations dans l'année, c'est ça ?
Ou... Alors un miracle, ça dépend. Là, le Dieu est infiniment libre sur la question, parce qu'un miracle n'a pas nécessairement lieu dans le diocèse. Il peut y avoir des miracles qui ont lieu ailleurs. Mais on voit que cet évêque qui a vécu, grosso modo, 70 ans après le Concile de Trente, a mis en œuvre les réformes. Le pape François rappelait la règle un peu... empirique, qu'il faut 100 ans pour mettre en œuvre les réformes d'un concile. On est à 50 ans du Concile Vatican II. Et donc, se mettre derrière, sous la houlette d'Alain de Solmignac, pour permettre de mettre en œuvre la grâce du Concile Vatican II dans le diocèse de Cahors, je pense que c'est un peu ce qu'on va désirer pendant cette année, quoi.
Alors, avant qu'avec vous, Étienne Beau, mais évidemment, enfin, c'est un jeu de ping-pong, hein, n'hésitez pas à vous répondre, qu'on découvre un peu la vie de ce saint, qu'on fasse un peu d'histoire, en essayant d'actualiser le plus possible la vie de ce... Pardon, pas de ce saint, de ce bienheureux. Juste peut-être, l'abbé Ronan de Gouvello, quand vous avez découvert la vie de ce bienheureux, je sais pas, évidemment, je vous demanderai des réactions au fur et à mesure de l'émission, vous êtes dit quoi quand on l'a vu ? C'est vrai que c'est... Enfin, c'est impressionnant, comme zèle apostolique, j'imagine, quand on est pasteur, on se dit... Ouah, non ?
On se dit « waouh ». C'est l'effet « waouh ». Ça fait bien connu pour l'audiovisuel, vous savez, l'effet « waouh ». Et en fait, ce qui est très touchant, c'est que... Enfin, moi, ce qui m'a touché en découvrant la figure d'Alain de Solmignac, c'est cette confiance très grande qu'il fait dans l'Église. L'Évangile, en fait, à chaque période, a besoin de saints pour porter du fruit. C'est pas quelque chose de magique... Et dans l'église de son temps, qui avait besoin de vivre une profonde réforme, particulièrement au niveau du clergé,
il y reviendra, oui.
Eh bien, il va tout mettre en œuvre avec les moyens qu'il avait à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, un évêque ne ferait pas les mêmes choses, mais il va tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ses fins. Et donc, au début, c'est pas d'amis. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Cet homme, en fait, n'a rien à perdre. En fait, il est là au service de Dieu, de l'Évangile. Il a dans sa formation spirituelle, il a été très marqué et il a les outils qu'il faut pour vivre théologiquement, des outils spirituellement, pastoralement, et même au niveau de la gouvernance, il a quand même un charisme très particulier. Et donc, il met tout en œuvre et il ne se fait pas d'amis. C'est pas du tout quelqu'un qui va essayer de conquérir par le charme. Mais ce qui est très beau, c'est que ça porte du fruit à long terme. Et je trouve, ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, eh bien, où on est un peu dans, vous savez, les enquêtes d'opinion, de sondage, où immédiatement, il faut qu'une réforme soit immédiatement accrocheuse dans l'opinion publique. Et si jamais on a une cote de popularité qui descend, ça veut dire qu'en fait, on est un mauvais gouvernant. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, on est face à une figure qui va croire à ce qu'il fait jusqu'au bout, et pourtant très à l'écoute, hein, c'est pas quelqu'un de borné, vous verrez, et ça me touche beaucoup aujourd'hui.
Alors, j'allais dire, on rentre dans le vif du sujet, mais vous avez déjà commencé. Étienne Beau, donc je rappelle, vous êtes historien, agrégé d'histoire, vous êtes un bon connaisseur d'Alain de Solminiac, en tout cas c'est vers vous qu'on m'a tourné. On m'a dit, il faut absolument que tu invites Étienne Beau, il connaît Alain de Solminiac sur le bout des doigts, donc ça tombe bien. On va pas évidemment raconter toute sa vie, hein. On va mettre en bouche, puisque en tout cas pour le diocèse de Cahors, il y aura bien des occasions de mieux découvrir cette figure. Il naît le 25 novembre 1593. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la famille dans laquelle il naît déjà ? C'est-à-dire, il n'est pas né dans n'importe quel biotope familial, si je puis me permettre cette expression.
Oui, la famille d'Alain de Solminiac appartient à cette petite noblesse périgourdine qui ne bénéficiait pas de ressources considérables, mais qui était quand même titulaire de propriétés et de bénéfices qui permettaient à cette famille de caser ses enfants. Et ce fut le cas pour le jeune Alain, qui n'était pas précisément attiré par le métier des armes, par sa complexion et par goût, et il s'est tourné, ou on l'a tourné, et il a parfaitement admis, vers l'état ecclésiastique, et notamment un de ses oncles qui possédait, puisqu'à l'époque c'était ainsi, une abbaye bien décatie, mais qui faisait partie du patrimoine familial, l'abbaye de Chancelade en Périgord. Un de ses oncles, connaissant le bon naturel, comme on a dit, de son neveu, a estimé tout naturel de lui confier cette abbaye.
Et il prend la direction de cette abbaye à quel âge ?
Alors il prend la direction de cette abbaye autour de 25 ans. Il est tout jeune encore. Et son oncle lui disait, laissez aller les choses comme elles sont. Son oncle lui conseillait de profiter calmement des bénéfices de cette abbaye, qui avait des domaines, mais voilà, c'est ça l'originalité d'Alain de Solminiac.
Et tout de suite, ça va être un réformateur.
Il se met à restaurer cette abbaye qui était tout à fait décatie, qui était somnolente, avec peu de moines. C'était la règle des chanoines de Saint-Augustin, qui est une règle extrêmement souple, qui permettait aux gens de sortir très largement, de mener un petit peu la vie qu'ils voulaient. Et Alain, au contraire, a restauré la règle. Il a commencé par restaurer les bâtiments lui-même.
Attends, juste un truc. Il y a un truc, c'est que j'ai pas très bien saisi quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire que il est entre guillemets, il prend en main l'abbaye et après, en fait, il va faire des études à Paris. C'est-à-dire qu'il était déjà prêtre, en fait, c'est ça ?
Oui, il était déjà prêtre.
Sa première entre guillemets nomination, c'est d'être abbé de Chancelade. Est-ce que
oui,
on disait abbé ?
Oui. Pour bénéficier du patrimoine familial. Voilà. Il n'a pas cherché, on ne lui a pas donné d'autres affectations, finalement. Et c'est une réussite dans la mesure où cette réforme qui se place dans l'ensemble des réformes de l'époque, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de réformateurs. Donc,
on y reviendra un peu plus tard du contexte. Enfin, voilà. Le contexte nécessitait ces réformes. Voilà. Le clergé en France n'était pas dans un très bon état, on va dire.
Ah non, du tout. Du tout. Mais sa réputation a chancelade, a très vite débordé le cercle restreint, régional, et il a eu des vocations. Il a eu des vocations, c'est-à-dire qu'il a eu des jeunes gens qui sont venus grossir les rangs de cette abbaye qui avait très bonne réputation, et ainsi, c'est ce qu'il a fait remarquer.
Donc si on prend les choses de l'ordre, donc, vous avez dit l'origine familiale, c'est quelqu'un donc, qui a une vocation assez tôt, en fait, c'est ça ?
Oui,
qui fait son séminaire, qui est ordonné à Paris, vous me disiez, c'est ça ?
Voilà, qui a eu le diaconat à Rocamadour.
Diaconat à Rocamadour, c'est dire, vous aviez un commentaire.
En fait, il fait son séminaire. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y a pas de séminaire. Donc on est dans une pauvreté du clergé considérable, et d'ailleurs, ça va être une de ses intuitions. C'est-à-dire qu'en fait, pour mener à bien une réforme, il faut un clergé qui soit solide. Mais, à l'origine, il va bénéficier à Paris de la spiritualité de l'école française.
Alors allez-y, oui, alors justement, on met les choses dans l'ordre. Donc en effet, il va à Paris et là, il bénéficie.
Et les rencontres des maîtres spirituels qui vont lui donner les armes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un prêtre ou un évêque est dépendant de manière considérable de sa formation. Et ça, ça ne s'invente pas.
L'école française, il faut expliquer dans ces cas-là. Alors, peut-être qu'il faut faire une toute petite digression historique. Je me disais qu'il fallait la faire plus tard, mais est-ce que vous pouvez contextualiser, c'est-à-dire à ce moment-là, la France, donc au début du XVIIe siècle, sort des guerres de religion, extrêmement divisée, et à quoi ressemble, on va dire...
L'Église de France est absolument sinistrée. Elle est sinistrée dans les bâtiments, elle est sinistrée dans le spirituel, faute de formation du clergé, elle ne s'est pas résistée au coup de boutoir de la réforme, et finalement, ce premier XVIIe siècle, qu'on a appelé le siècle des saints, est une période de reconquête grâce à des grands spirituels comme Bérulle, comme Monsieur Ollier, comme François de Sales, comme Saint-Jean-Eudes,
Saint-Vincent de Paul.
Voilà. Et Vincent de
Paul. Donc c'est une période de l'Église catholique est dans un piteux état, c'est une période de refondation.
De refondation, voilà. Il faut le souligner, grâce à Louis XIII, qui est un prince authentiquement pieux, non pas une piété d'étiquette comme plus tard les rois de France, mais il est absolument convaincu. Et comme en vertu du concordat de Bologne, c'est le roi qui choisit les évêques, il est absolument essentiel de montrer que c'est le choix de ces évêques qui a été déterminant pour assurer le succès des décrets du Concile.
Alors vous me parliez de l'école française, est-ce que vous pouvez dire peut-être expliquer un l'école petit peu française, en gros trait ce que c'est et puis les rencontres qu'il fait à Paris du coup à ce moment-là.
L'école française, c'est la suite de Jésus, quoi. Je me mets à la suite du Christ. Je vais vouloir, avec la Vierge Marie, faire vivre Jésus en moi. Et donc lui faire revivre les mystères. Donc je vais méditer la parole de Dieu en m'appropriant les mystères et en permettant au Christ qui habite en moi de me permettre de connaître par le cœur, non plus par une théologie peut-être desséchante qui n'a plus de sens spirituel, de redécouvrir le primat de la relation à Dieu et à Jésus dans la prière. Alors vous avez des ouvrages très beaux, hein, mais il y en a un qui est l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, qui est on va dire qui est encore aujourd'hui un ouvrage de référence
de spiritualité.
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui débute, il faut qu'il commence par lire Introduction à la vie dévote de saint François de Sales. C'est sublime.
Le texte peut paraître un peu vieux, mais il y a des traductions.
Il y a des traductions du vieux français. Le vieux français se lit assez bien quand même, c'est pas trop compliqué. Mais, son vieux français n'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit une vigueur dans la démarche spirituelle qui emporte l'adhésion. On se dit, mais c'est ça que je veux vivre.
Alors il rencontre donc il rencontre saint Vincent de Paul, saint François de Sales.
Voilà. Je ne sais pas exactement les saints qu'il rencontre à Paris, mais je sais que ces maîtres sont pétris de cette spiritualité, et donc il revient avec un idéal de sainteté pour le chrétien, qui d'un seul coup va autour de lui, a énormément attiré.
Donc, si on avance, alors on avance à grands pas, hein, on parcourt cette histoire, mais voilà, il faudra venir à Cahors pour, tout au long de cette année pour entendre parler de ce bienheureux. Il est nommé, donc, nommé, c'est pas tout à fait le terme exact, il est, comme on dit, consacré évêque, donc, en 1636, l'un des plus, à Cahors, donc, évêque de Cahors, c'est l'un des plus grands diocèses du royaume à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de à quoi ressemblait cet évêché autrefois?
Oui, cet évêché est beaucoup plus grand que le département du Lot actuel et par conséquent que l'évêché de Cahors actuel, puisqu'il s'étendait pratiquement jusqu'à Montauban et il comportait tout le Bas-Quercy. C'était un évêché composé d'une immense paysannerie. On peut avancer le chiffre de 350 000 habitants, ce qui est absolument considérable dans une France qui ne devait guère en compter que une 18 bon poids, millions. Donc c'est un évêché considérable, avec 900 prêtres, dont 700 pourvus de bénéfices, des religieux, une université, un collège de jésuites, c'est quelque chose de considérable.
Il est évêque et comte de Cahors.
Alors,
aussi.
Alors, l'originalité, c'est peut-être aussi, c'est ça, cette double casquette, si on peut dire ainsi, il est en même temps évêque, c'est-à-dire chargé du spirituel, et comte de Cahors, depuis des siècles, depuis Saint-Didier, ça remonte au 7e siècle, hein, l'évêque est comte seigneur de la ville, avec à la tête d'un immense patrimoine. Et ce patrimoine lui procure d'énormes revenus, auxquels s'ajoutent les revenus en tant qu'évêque. Donc, c'est un personnage considérable. Et il va mettre toutes ses ressources, toute son énergie, à assumer cette double tâche, nous dirions aujourd'hui, à la fois religieuse et civile. Et c'est là ce qui nous confond d'admiration, parce que c'est tellement étranger, au fond, à la situation actuelle.
Alors, peut-être est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire le rayonnement qu'il a eu, puis on va faire une première pause musicale, et puis après on va rentrer un peu dans le détail en essayant de faire justement des allers-retours avec pas forcément la situation actuelle, il ne s'agit pas de comparer, mais en quoi ça peut inspirer le diocèse de Cahors.
On peut noter qu'une des conditions de son épiscopat, il veut que Rocamadour soit sous sa juridiction. Et on lui doit aujourd'hui d'avoir Rocamadour dans le diocèse, car à l'origine Rocamadour n'était pas attaché au diocèse de Cahors. Et c'est vrai que ça note aussi, je trouve, l'attachement spirituel qu'il met à sa tâche. Bien sûr, il a une tâche de gouvernance, mais il veut emmener à Dieu, quoi.
C'est pour ça qu'il a, au début de son épiscopat, il a pratiquement interdit d'aller à Rocamadour.
Alors juste, excuse-moi, on rentre
puisque ça dépendait de l'évêché de Tulle, qui était très mal administré. Et quand à l'issue d'un procès, il a réussi à récupérer Rocamadour, c'est à ce moment-là qu'il a dit, il faut aller à Rocamadour.
Bon, enfin voilà, oui, il y a plein de choses à raconter, donc on va faire une première pause musicale et on va essayer de continuer à mettre de l'ordre dans tout ça et voir donc, comment dire, la fécondité de son action, donc réformateur du clergé, apôtre infatigable à la rencontre de ses fidèles et au service des plus pauvres.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc Vivante Église en direct de Cahors, donc sur le bienheureux Alain de Solmignac, à l'occasion donc de cette année Alain de Solmignac qui va s'ouvrir donc le 10 juin prochain à l'occasion de la fête du Saint-Sacrement et qui courra jusqu'au 22 septembre 2018, le anniversaire, date anniversaire de 400 ans de l'ordination sacerdotale de ce bienheureux. Voilà, vous en avez, il paraît que vous avez un saint aussi dans votre diocèse, non ? Je vous prends dépourvu,
On en a plein.
Ah bon ?
C'est un diocèse où la sainteté fleurit.
Ah bon, c'est vrai. Je pensais que vous en aviez un, Saint-Gabriel, Père...
Saint-Jean-Gabriel, Père Boire.
Voilà.
Donc qui lui,
vous
au
en avez
19e siècle,
en fait, c'est ça ?
Ouais. Qui lui, au 19e siècle, a été donc en mission. Et c'est le premier martyr de Chine. C'est une histoire incroyable, mais ça vaut au moins une émission.
Voilà, je reviendrai. Je sens que vous m'aurez invité, même si vous n'êtes pas, l'évêque, vous êtes en tout cas dans le coin. Donc peut-être que je vous aurai plus facilement que l'évêque pour faire d'autres émissions. Voilà, donc on reviendra pour parler de ces différents apôtres. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire, à Étienne Beau, quelques mots du contexte ? Alors le contexte historique, on a compris, hein, donc on sort des guerres de religion, c'est l'époque de la contre-réforme, peut-être il faut expliquer ce que c'est que la contre-réforme et le concile de Trente en quelques mots, et puis après vous nous direz l'état un peu du diocèse de Cahors quand il a commencé son œuvre apostolique étonnante.
Oui. Il est certain que l'Église, à l'époque, est une Église, encore une fois, sinistrée. Sinistrée dans ses bâtiments, sinistrée dans son clergé. Et le diocèse de Cahors ne fait pas exception. Il y a eu pratiquement 80 ans de carence épiscopale. Et les guerres de religion, n'oublions pas qu'elles se sont prolongées encore sous le règne de Louis XIII, puisque Louis XIII est venu en personne faire le siège de Montauban et reconquérir cette ville contre les protestants. Donc c'est un passé très récent quand Alain prend possession du diocèse de Cahors. Et sa réforme est très difficile à faire. Ne pensons pas qu'une réforme pastorale se fasse dans la tranquillité. Au contraire, le siècle est très dur, il est violent, il y a un esprit de fronde partout, un esprit d'indépendance. Les gens ont beaucoup regimbé. Et puis Alain luttait contre les abus et il gênait beaucoup de monde par conséquent de ce côté-là et en bousculant le désordre établi. Donc il a passé sa vie à lutter contre les opposants. On lui a reproché son caractère violent, ses colères, ses duretés parfois, mais encore une fois, c'est au service d'une foi profonde qui ne transige pas. Songeons qu'il résistait même aux pressions des grands. Richelieu, qui voulait caser un de ses protégés dans le diocèse, eh bien, il lui a écrit qu'il n'en était pas question. Il fallait le faire.
Quelques mots aussi donc de la contre-réforme et du Concile de Trente, puisque donc... L'abbé Ronan de Gouvello le précisait en introduction, en fait, il arrive à un moment où, enfin 70 ans après le Concile de Trente, donc pour la mise en place de ce concile, vous avez dit qu'il a été aidé à l'époque, donc par, la mise en place de ce concile a été aidé par Louis XIII, qui choisissait les bons évêques, à vous entendre. C'est quoi cette contre-réforme et ce Concile de Trente, peut-être vous pouvez redire en quelques mots ?
Elle est absolument indispensable, puisque les structures de l'Église s'étaient alourdies au fil des siècles, le temporel y étouffait toutes les aspirations spirituelles, et la hiérarchie. Il y avait donc une véritable trahison des clercs, comme on a dit plus tard, et les réformés, dans ce siècle qui était officiellement chrétien, encore les réformés, avaient voulu la séparation effective de la croyance et de la vie. Et c'est cette impuissance de l'Église à satisfaire cette fin de Dieu, finalement, comme le père de Gouvello l'a signalé il y a quelques instants, cette intériorisation de la religion pour la vivre correctement, c'est pour sauver tout cela que le Concile de Trente a enfin donné des consignes claires, rassurantes. Quand j'ai visité l'église, la cathédrale de Trente, j'ai été très ému quand j'ai vu que les évêques du Concile aller dans une chapelle chaque fois qu'ils avaient décidé un article important du concile, ils allaient rendre grâce à Dieu devant un crucifix, dans cette église, dans une chapelle de cette église. Et c'est tout cela qu'il a fallu faire passer. Et pour Alain de Solmignac, il n'y a rien d'autre que cette application du concile et cette réforme que Saint Charles Borromée, dans l'archevêché de Milan, avait lui-même été le premier à mettre en action.
Abbé Ronan de Gouvello.
En fait, le Concile de Trente, une de ses grandes réformes, on va dire que c'est le Concile de l'Eucharistie. Véritablement, c'est ce qui va donner une universalité très et une unité très grande dans la célébration de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi d'ailleurs notre évêque a désiré que l'année Alain de Salmignac commence le jour de la fête Dieu, qu'on disait à l'époque, la fête aujourd'hui qu'on dit du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'attachement à Jésus présent dans l'hostie. C'est cet attachement du cœur, de l'intelligence, qui va gouverner, je dirais, toute la réforme de l'Église. Et c'est important de pouvoir voir à quel point Alain de Salmignac va être attaché, par exemple, à la dévotion de l'exposition du Saint-Sacrement. Il va véritablement avoir un culte eucharistique central dans son existence, et il va vouloir la donner aux prêtres. Pour lui, un prêtre qui ne fait pas une heure d'oraison devant le Saint-Sacrement par jour ne peut pas tenir une charge. Vous voyez, on est sur des choses très très essentielles de la vie du clergé qui avait une vie de prière très pauvre.
Alors justement, la vie du clergé, on essaie d'organiser en préparant l'émission ensemble, on s'était dit qu'on allait voir un petit différents aspects pour le clergé. Donc il n'est pas du tout en bon état. Qu'est-ce qu'il a fait auprès du clergé? Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être, Étienne Beau?
Oui, alors il a commencé par réunir un synode en 1638 pour mettre au point, je dirais, toute la logistique de refonte de son clergé. Et il a divisé son diocèse en 14 archiprêtrés avec un responsable. Il a créé un corps de vicaires diocésains qui était chargé de circuler un petit peu partout et de lui rendre compte de ce qu'il avait décidé. Et les articles de ce synode portent sur la dignité de vie de ces prêtres, sur l'obligation de porter l'habit ecclésiastique, évidemment d'éviter toute vie scandaleuse, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres qui vivaient en concubinage, qui avaient des enfants sans se cacher en quelque sorte, donc la dignité du clergé avant tout, et par conséquent, quand ça n'allait pas bien, des avertissements répétés, et ça pouvait aller jusque à l'excommunication.
Il a aussi créé un séminaire ici ?
Alors il a créé un séminaire.
Vous m'avez dit, on prépare l'émission, qu'il disait que c'était le plus beau séminaire de France.
Voilà, il a demandé à son ami Vincent de Paul la création d'un séminaire, c'est-à-dire que Saint Vincent lui a envoyé des lazaristes.
Autre grand saint de l'Église.
Et c'est à côté de l'église Saint-Barthélemy de Cahors que ce premier séminaire s'est installé, l'église Saint-Barthélemy servant de chapelle aux séminaristes. Il a voulu donner des biens à ce séminaire pour qu'il puisse recruter. Et à la fin de son épiscopat, il y avait 70 séminaristes. Il était parti avec...
diocèse 70 du diocèse
70 séminaristes pour le diocèse.
Moi, c'est lourde charge pour un séminaire.
Mais il y avait également pour les prêtres, il y avait chaque année pour les prêtres des sessions d'un secteur à l'autre qui venaient suivre des cours au séminaire. Nous dirions aujourd'hui une formation continue.
Alors on avance, je vous demanderai peut-être des commentaires un peu plus tard parce que voilà, il y a tellement de choses à dire et le temps passe. Auprès des fidèles, j'ai lu donc qu'il avait parcouru en long, en large ce diocèse donc, qui était l'un des plus grands de France, vous disiez si c'est pas le plus grand, avec 800 paroisses. Est-ce que vous nous racontez un peu ces visites pastorales, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai entendu dire entre autres que comme Saint François de Sales, il avait, je sais pas s'il l'a écrit lui-même, mais il avait fait des petits livrets, en tout cas accessibles aux gens, pour les aider aussi à regoûter à ce qu'était la foi chrétienne.
Auprès des fidèles, cette épopée. Son souci permanent, c'est de les amener à l'église, dans une église rénovée, dont les bâtiments sont restaurés, avec des ciboires, avec des objets du culte qui soient corrects, alors qu'il y avait parfois de pauvres assiettes pour servir de patène, ou de pauvres verres de terre pour servir de ciboire. Tout cela a été évidemment modifié et il y a consacré ses ressources. Auprès des fidèles, il s'agissait de les amener à l'église et c'est pour ça qu'il demandait aux prêtres surtout de la régularité. L'office du dimanche à des heures régulières avec un prône du prêtre et les fidèles étaient obligés de revenir à la confession auriculaire qui n'était absolument pas respectée jusque-là.
C'est quoi la confession auriculaire?
C'est-à-dire la confession individuelle dans, ah, voilà, dans un confessionnal.
D'accord. Hein, il suffit pas de lever le petit doigt.
C'était absolument délaissé à ce moment-là. Revenir aussi à la dignité de la célébration.
Mais alors racontez-nous quand il allait sur les chemins. Vous disiez même qu'il n'y avait pas de chemin à l'époque.
Voilà. Il a visité...
Comment il faisait en fait?
Il a visité toutes les paroisses. Il y a eu dans son épiscopat 8 visites de tout le diocèse.
Et s'il n'y avait pas de chemin, comment il s'y prenait?
Alors au début, à cheval, il avait des mules. Ensuite en carrosse. Et à la fin de sa vie en litière, quand il était complètement épuisé. Et il allait chez les curés d'un secteur, il refusait d'aller chez les curés indignes, il ne voulait qu'aucune dépense ne soit faite. Il faut s'imaginer ce qu'était le diocèse de Cahors à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de grande route, il n'y avait que la grande route plus tard, à la fin de son épiscopat, la grande route Paris, Limoges, Toulouse, qui traversait le département en étrangère. Tout le reste, c'était de mauvais chemins, qui était impraticable pendant l'hiver à cause de la boue. Ça ne le rebutait pas. Il arrivait. Quand il arrivait, il montait en chaire. Il rassemblait la population. Il prêchait. Il confessait. Il donnait le sacrement de confirmation, qui était un sacrement qui était complètement ignoré de la plupart du temps. Et il vénérait le Saint-Sacrement. Il faisait sa petite enquête sur la façon dont l'Église était administrée. Il donnait de bons et de mauvais points, bien entendu, et il allait dans une autre paroisse.
Un commentaire, Abbé Renaud de Gouvello.
Ce qui est très frappant, c'est... on parlait de la confession. On dit même que sur sa mule, en fait, les gens l'accompagnaient, ils se confessaient à lui. D'un bout du champ à l'autre, puis ensuite il changeait de personne qui l'accompagnait, même ses trajets étaient apostoliques, je dirais. Son temps était investi pour le soin des âmes, et ça c'est très beau. C'est très beau aussi de voir des liens, le souci, enfin j'imagine qu'on en parlera après, mais le pape François, depuis qu'il est arrivé comme pape, n'a de cesse de réveiller le clergé. Peut-être que les fidèles n'en ont pas connaissance, mais chaque fois qu'il s'adresse au clergé, c'est pour nous rebooster, on va dire, nous réveiller.
Jusqu'à la curie romaine qui prend parfois bien à rebrousse-poil.
Et oui, mais il n'y a pas que la curie romaine. Puis quand il parle de la curie romaine, on est bien heureux de qu'on ne soit pas visé directement, mais on souffre des mêmes maux. Il faut juste savoir. ce qui est intéressant, c'est que le pape François, à qui les cardinaux ont confié vraiment ces désirs de réforme de l'Église, utilise les mêmes méthodes. Il faut que le clergé soit saint, autrement, autrement tous les efforts ne pourront pas aboutir, quoi. Si les évêques, les prêtres sont saints, alors à ce moment-là, il y a des chances de pouvoir mener la sainteté pour tous, hein, pour tous. Mais on a besoin de pasteurs, quoi.
Avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, parlez-nous des plus pauvres. Alors, il a aussi eu une grande attention aux plus pauvres. Il a fondé, semble-t-il, un certain nombre d'œuvres. Là aussi, c'est...
Oui, on lui a reproché
en 22 ans,
d'être
ça,
procédurier. Il avait 200 procès sur les bras, mais c'était des procès pour récupérer des biens, des redevances qui avaient été spoliées par des laïcs. Il les récupérait et il les récupérait pour faire des fondations. C'est-à-dire des fondations d'œuvres de charité, nous dirions aujourd'hui, deux orphelinats et également des pensionnats pour les filles perdues, comme on disait, les filles vagabondes qu'il s'agissait de récupérer. Et c'est pour cela qu'il a fait appel à des congrégations féminines. Il a fondé également une maison des Pères de la Merci. Les Pères de la Merci, c'était des pères qui étaient chargés de recueillir des dons pour racheter des captifs chez les barbaresques, comme on disait, chez les Turcs. Donc, vous voyez, son horizon va au-delà encore de son diocèse. Et puis, finalement, au sujet, comme il a des attributions civiles, il a lutté aussi contre les fléaux de son temps, c'est-à-dire l'usure, qui est fille de la misère, qui pressurait les paysans. Il a lutté aussi contre l'habitude des duels, qui était qui décimait les familles parfois pour une question de point d'honneur complètement stupide. Et on le voit, mais des choses que nous n'imaginerions pas aujourd'hui du fait de ces... Il interdit, par exemple, aux parents de dormir dans le même lit que les enfants, que les petits-enfants, que les petits-bébés. Parce que bien souvent,
beaucoup
de petits-enfants périssaient, étouffés dans des lits. Et malheureusement, on soupçonnait parfois des familles de se débarrasser des enfants en faisant ainsi. Donc vous voyez, ça va jusque dans des détails que nous n'imaginerions pas aujourd'hui dans la préoccupation de l'évêque.
Voilà, en tout cas, cet évêque meurt d'épuisement, dit la tradition, donc le 31 décembre 1659, comme un certain nombre de saints, on dit la même chose de Saint Vincent de Paul. On va faire une deuxième pause musicale après ce parcours historique, merci beaucoup, fort agréablement illustré, si je puis me permettre cette expression, et puis après on va rentrer un peu plus profondément dans sa spiritualité, en essayant de voir encore plus ce qu'il peut dire à chacun, et pas seulement aux prêtres du diocèse de Cahors ou à son évêque.
Présence à l'Albinque 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église, donc ce matin en direct de Cahors sur Alain de Solmignac. Si vous nous prenez en cours de route, n'ayez pas peur. C'est un bienheureux du XVIe siècle, donc du diocèse de Cahors, qui va être mis à l'honneur cette année dans le diocèse de Cahors en 2017, du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle, pardon, oui, vous avez raison, du XVIIe siècle. Enfin, il est né au XVIe siècle, donc qui va être remis à l'honneur donc cette année dans le diocèse de Cahors, donc année Alain de Solmignac, qui s'ouvrira le 10 juin prochain. Donc je vous rappelle que nous sommes avec l'abbé Renan de Gouvello, qui est curé de Cahors, et Étienne Beau, qui est historien, agrégé d'histoire, et entre autres animateur, producteur d'une émission ici qui s'appelle Histoire du Quercy. Alors, sa spiritualité, pour finir, il faut aller vite, puisque comme c'est passionnant, le temps est passé rapidement. Peut-être la première chose qui ressort, vous en avez dit un mot, Renan de Gouvello. C'est donc c'est une spiritualité derrière, on y reviendra, ce grand ascète, cet homme qui peut-être a été vu par certains un peu caractériel, ou en tout cas qui a un tempérament qui pouvait apparaître colérique ou très fort pour certains. Derrière tout ça, il y a cette idée que tout doit être fait par amour, en tout cas c'est ce qu'il ne cessait de dire et de redire. Ça aussi c'est propre au XVIIe siècle, ça rappelle un petit peu Saint François de Sales. Alors ça, sans vouloir faire une émission de spécialiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ce tout par amour à cette époque dans l'Église de France?
Bien, Étienne Beau. Je reprendrai ce qui a été dit par le père Ronan, c'est-à-dire ce culte de l'Eucharistie et de la contemplation du Saint-Sacrement. Quand on regarde par exemple les entretiens qu'il faisait chaque année au château de Mercues, on voit par exemple que
château de Mercues, c'était donc la résidence des évêques.
Qui était la résidence, puisqu'il n'y avait pas d'évêché, il n'y avait pas de bâtiment particulier dans le cœur de Cahors, l'actuel palais épiscopal devenu préfecture, c'est 50 ans après. Hein. Donc le 18 octobre, je lis « Entretien le matin sur l'exposition du Saint-Sacrement ». Donc vous voyez, c'est au cœur de sa spiritualité, et c'est pour ça qu'il tenait tellement à rétablir la dignité du culte, dans des édifices rénovés, avec un matériel précieux, en quelque sorte, avec des retables, avec tout un environnement pour célébrer la majesté de Dieu. Je pense que c'est ça. Et tout le reste venait après, évidemment. Tout le reste était au service de cette préoccupation.
Alors, tout par amour, c'est ça, mais c'est aussi, enfin, c'est quoi? C'est faire toute chose, d'abord avec amour, avec le cœur. Comment l'expliquer, peut-être
plus? En fait, il a...
Abbé Ronan de Gouvello.
On peut parler dans ce cas-là de Saint François de Sales, qui avait, on dit, c'est la peau de la douceur. Donc, tout par amour, c'est d'abord la méthode qu'il va utiliser. On dit qu'il était un peu rude. Mais ce qui motive, c'est colère. C'est pas un dépassement, une non-maîtrise de ses passions. C'est qu'en fait, il brûle d'un zèle jaloux, je dirais. Il connaît le prix d'une âme qui a été sauvée par Jésus. Et donc, il veut aller chercher chacune de ses brebis. Ce qui est très beau, c'est qu'en remettant, comme disait Monsieur Beau, la confession auriculaire, ou plutôt la confession individuelle, eh bien, ça veut dire que c'est le soin de chaque brebis. Il ne veut pas faire du nombre. Il veut que chaque âme est précieuse, quoi. Et donc, ces méthodes, il sait qu'on n'attire pas les gens par la rudesse. Lui peut être, on peut dire, sur un caractère extérieurement peut-être difficile, mais en fait, c'est un apôtre de la douceur.
Mais il ne fait pas que ça par stratégie. Enfin, on dit du Christ lui-même qu'il était doux et humble de cœur, non?
Vous m'enlevez la citation de la bouche. Vous voyez, il dit aux prêtres, il demande aux prêtres, ils seront patients et charitables, exerçant l'office de la confession sans précipitation et avec plus de douceur que de rigueur. Ouais, c'est quand même.
Ça rappelle presque le pape François.
Mais ça a des connotations tout à fait actuelles aujourd'hui, où on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais on est là pour attirer par la douceur, parce que le Christ attire par la douceur. Il y a une fermeté, mais. La béatitude est empreinte de douceur, quoi. Et l'école française de spiritualité, c'est l'école du cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, doux et humble de cœur, c'est ce que Sainte Marguerite Marie recevra comme révélation à Paray-le-Monial.
Donc voilà, mystique française, donc il y a eu à Paray-le-Monial, donc en France, en Bourgogne, au XVIIe siècle, des apparitions du Christ.
Des apparitions du Christ à cette visitandine, donc dans l'ordre de Saint François de Sales.
Apparition reconnue par l'Église.
Par l'Église. Aujourd'hui, le sanctuaire est porté par la communauté de l'Emmanuel, qui a vraiment repris ce message du cœur de Jésus, où Jésus apparaissant à Marguerite Marie, lui disant, voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui n'a reçu en retour qu'ingratitude et mépris. Et donc on voit qu'en fait, ce qui est le moteur, je dirais, de sa spiritualité, mais aussi de sa doctrine, c'est l'amour incroyable que Dieu a eu pour nous. Il se donne dans l'Eucharistie, il faut aller au contact de sa présence réelle, qui, par, je dirais, contagion, par union transformante, va faire de mon cœur un cœur doux et humble aussi.
Alors, l'autre volet que je voulais aborder, donc pour peut-être, enfin pas illustrer, mais enfin donner à voir sa spiritualité, c'est son grand ascétisme. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui peut-être qui peut être difficile à comprendre, quoique des grands ascètes, il en existe aujourd'hui encore, même si probablement ils ne font pas de bruit. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette vie ascétique? Étienne Beau, j'ai lu entre autres qu'il avait pris l'habitude, alors on me dirait ça peut paraître dérisoire, qu'il ne prenait qu'un repas par jour, ce qui n'empêchait pas de recevoir avec générosité et convivialité ses invités.
Quand il avait accepté l'évêché de Cahors, il avait dit « je resterai moine ». Et il avait gardé toute la vie au-dessous de son camail épiscopal avec la croix pastorale, il avait gardé la robe blanche des chanoines de Saint-Augustin. Et il avait dit, je préférerais qu'on m'arrache la peau plutôt que l'on m'arrache, ce qui est bien dans le caractère de cet homme qui ne mâche pas ses mots. Et effectivement, il a continué à adopter une sorte de vie monastique, ennemi de toutes les mondanités, on pense au pape François, ennemi de toutes les mondanités que son rôle civil l'obligeait à assumer parfois. Très faibles heures de sommeil finalement, très longues heures passées la nuit après sa journée de travail en oraison dans sa chapelle de Mercues. Une alimentation extrêmement frugale contre laquelle son médecin essayait de lutter. Vincent de Paul lui disait de se ménager, de ne pas mener une vie aussi rude.
Devenant de Saint-Vincent de Paul, c'était cocasse parce qu'on sait qu'aussi...
Oui, alors il lui a répondu, nous avons la lettre, vous feriez mieux de faire vous-même ce que vous me recommandez. C'est exactement ça. Hein. Ce qui fait que ses forces ont été évidemment très vite altérées, ce qui ne l'empêcha pas jusqu'au bout, en dépit des obstacles. Et son rayonnement était quand même tel que M. Ollier, supérieur de Saint-Sulpice, quand il a voulu poser la première pierre de sa nouvelle église à Paris, en 1646, il a invité Alain Solmignac, qui est allé à Paris, et c'est lui qui a présidé la cérémonie. C'est dire quand même que sa réputation avait très largement dépassé les limites du diocèse de Cahors.
Quel sens a cet ascétisme? Comment est-ce qu'on peut essayer de... Enfin, d'abord, pour tous ceux qui nous écoutent, qui est parfois peut-être vivre aussi... On sait qu'on a un certain nombre d'auditeurs qui sont malades et qui peuvent vivre aussi des difficultés... un ascétisme social, enfin je sais pas comment expliquer. Enfin, comment illustrer cet ascétisme choisi et comment peut-être y trouver que ceux qui le vivent de manière contrainte puissent y trouver une lumière.
La base de tout ascétisme, d'abord, c'est d'être mesuré. C'est pas d'être héroïque, parce qu'autrement on tombe immédiatement dans un autre piège, ce qui est l'orgueil spirituel. C'est d'être mesuré et souvent d'être encadré par un accompagnateur spirituel qui, de l'extérieur, peut nous aider, quoi. Mais l'ascétisme, c'est surtout suivre Jésus, qui n'avait pas de pierre où reposer sa tête. Donc, en fait, rien ne se comprend si on ne vit pas les choses unies à Jésus, qui a dit « Celui qui va être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». L'apôtre sait que, quand on lit les épîtres de saint Paul, ou les actes des apôtres, on est stupéfait de voir la vie, par exemple, de cet apôtre qui est saint Paul, dans ce qu'il a subi dans sa vie. C'est juste sidérant. Et quand on a les sortes de litanies de ce qu'il vivait, soit subi, soit choisi. Un jeûne, c'est choisi, des veilles de prière, c'est choisi, des bastonnades, des lapidations, ça c'est subi, on ne court pas derrière. Mais ce qui importait à saint Paul, c'est que tout soit vécu uni à Jésus. Donc en fait, on va dire d'une certaine manière, Alain de Solmignac ne va pas chercher un ascétisme comme une sorte d'esthétisme spirituel morbide. Il va s'attacher à la figure de Jésus et s'aperçoit au bout d'un moment que, en fait, pour suivre le Christ, eh bien, pour le préférer à tout, il faut que je purifie en moi tous les attachements désordonnés au monde. On voit bien qu'on n'est pas dans un bien-être. Aujourd'hui, il y a une sorte de spiritualité du bien-être. Et on confond d'ailleurs spiritualité et bien-être. Et ça voudrait dire que l'accomplissement de ma vie spirituelle, ce qui ferait la bonté de ma vie spirituelle, serait que je sois dans une sorte de bien-être intérieur, paisible, donc en satisfaisant à tout ce qui pourrait troubler ce bien-être. Et bien là, on voit que l'attachement à Jésus, c'est tout autre. Ce qui fait mon tourment, c'est pas mon bien-être. C'est que Jésus soit aimé et connu. Et donc, je suis prêt à tout donner dans cette bataille. Je pense que l'ascétisme des saints n'est pas imitable. Mais, parce qu'en fait, ils ont vraiment vécu des choses. Quand on lit le curé d'Ars, c'est absolument pas imitable. Le padre Pio, c'est pas imitable. Donc l'idée n'est pas de les imiter, mais de comprendre ce qui faisait leur vie un peu exceptionnelle pour que dans une vie ordinaire qu'on doit vivre tous les jours, on puisse avoir non pas les mêmes ascétismes, mais je dirais, mais la même quantité d'amour dans nos actes, même les plus petits, quoi. C'est ce que je dirais.
Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était son humilité. Alors, il y a un épisode qui illustre peut-être cette humilité. Étienne Beau, est-ce que vous pouvez nous le rappeler, quand il a été nommé évêque, en fait, il a refusé deux fois d'être évêque. Et oui. Puis, enfin, il s'est fait plus que tirer l'oreille. Racontez-nous cet épisode. Et puis, peut-être qu'on peut dire un mot de l'important. Si vous avez d'autres illustrations, on peut encore prendre 2-3 minutes.
Il a été nommé évêque d'abord à Lavaur, qui est un petit diocèse qui avait été créé par Jean XXII. Il l'a refusé une première fois. Et il s'est trouvé que le cardinal de Sourdis, qui était archevêque de Bordeaux, lui a dit « Écoutez, ça suffit maintenant, on ne refuse pas une nomination du roi. » Il a hésité plusieurs jours, il a fini par accepter.
Non, c'est pourquoi il a hésité, en fait.
Et parce qu'il se trouvait indigne et qu'il voulait surtout continuer son œuvre de réformateur à Chancelade. Alors il est allé à Paris et Louis XIII se serait exclamé en disant « Heureux, mon royaume, de trouver des gens qui refusent des évêchés. » Alors que beaucoup de gens, beaucoup de cadets ou beaucoup de membres de la noblesse ne rêvaient que de ça, devenir évêque. C'était évidemment un couronnement mondain, considérable. Et voilà. Alors il a fini par accepter comme une pénitence et à condition de continuer à s'occuper de la réforme de son abbaye.
Voilà, et ben merci beaucoup de nous avoir présenté cette figure, le bienheureux Alain de Solmignac, qui va donc être fêté en 2017 par le diocèse de Cahors. Et on peut dire que c'est quoi? C'est un jubilé, c'est ça?
C'est un jubilé, oui, c'est l'anniversaire du 400e anniversaire, l'anniversaire de ses ordinations diaconales et sacerdotales.
Voilà, donc année Alain de Solmignac qui s'ouvrira donc le 10 juin prochain à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur. Merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin nous parler donc de ce bienheureux. Et merci à Thibault Alves donc, qui a réalisé cette émission avec Christophe Aubry en direct de Cahors. Cette émission, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.